Culture Vin, les vins du Languedoc-Roussillon en particulier et la civilisation du vin en général, une coproduction Divergence FM, vitisphère.com.
Qui accepterait d'une année sur l'autre une baisse de son revenu de plus de 3/4? Nous ne sommes même plus des travailleurs pauvres, nous sommes des travailleurs sans revenus. Nous sommes éruinés et abandonnés. Vous ne pouvez que le reconnaître. Nous subissons depuis 2004 un véritable outrage économique. Et aujourd'hui, nous survivons avec des cours du vin qui sont ceux de 1985. À Cannes, notre intégration sous le label du commerce équitable. Alors, nous attendons de vous, Monsieur le Président, que vous preniez la mesure de l'asphyxie économique qui étouffe nos exploitations viticoles. Je le clame haut et fort, Monsieur le Président, à ce rythme, je ne vous donne pas longtemps pour que vous ayez à gérer une catastrophe écologique sans précédent dans notre belle région. Oui, vous avez bien compris, je veux parler du feu qui, partant du pied de la cité de Carcassonne, s'étendra jusqu'à Collioure, Ruissac, Valras, la Grande Motte, le Vaudois.
Un viticulteur qui part le matin pour travailler, part travailler à perte, c'est-à-dire que, imaginons un salarié qui le matin se lève pour aller travailler et considère que dans ses 8 heures de travail, il va perdre de l'argent à chaque fois qu'il fait un peu. La raison essentielle, il y a de multiples raisons, une baisse de la consommation bien évidemment, et également des prix payés aux producteurs avec notamment la grande distribution qui sur les produits viticoles font une marge énorme puisqu'on considère que la marge est d'à peu près 60% entre le prix auquel la grande distribution le perçoit et le prix auquel elle le vend tout simplement.
Il y a la baisse de consommation due qu'on ne peut plus boire en conduisant, mais bon...
C'est la fête autour de nous.
Ouais. toutes les semaines, il y a du vin étranger qui arrive en France pour ça. Et beaucoup moins cher et on préfère l'acheter à l'étranger, en Californie, en Australie, en machin, que le produire en France et le vendre en France, quoi. Tous les jours, il y a des paquebots entiers de vin qui arrivent en France. Et on continue à ne pas le payer, quoi. Pas nous payer, quoi.
À une époque, c'était le vin espagnol, voilà. Le vin italien.
Le vin italien, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Tout vin italien, mais italien. Ouais. Beaucoup moins cher à la production, à la récolte et tout. Et nous, en France, on ne peut pas suivre, quoi, avec les impôts, avec les taxes, avec le prix du matériel qui fait qu'augmenter, le prix du gasoil qui fait qu'augmenter, et personne ne nous aide. Quoi.
Et vous êtes jeune, vous êtes donc de futurs vignerons pauvres, c'est ça ?
On est en dernière année de bac pro en lycée agricole. Et on sait pas quoi faire, quoi. On sait pas si on va s'installer ou pas. C'est trop de charges, trop de contraintes. Si je m'installe pour aller manifester tous les week-ends, c'est pas la peine, quoi. Et si j'arrive pas à nourrir ni ma famille, ni mes enfants, ni personne, et à travailler à perte, je connais pas beaucoup de gens qui sont à table pour travailler à perte, quoi.
Viticulteur désespéré, 6e édition de la fête de la vigne et du vin dans l'agglomération de Montpellier, Eno Tourisme Local, Les Copeaux ou La Barrique, poésie de Miguel Torga et revue de presse, le sommaire est chargé à Culture Vin cette semaine. Bonjour à vous, nous accueillons Yvon Pelé, maire de Saint-Géniès-des-Mourgues, vice-président de l'agglomération de Montpellier, chargé entre autres des questions viticoles, entre autres, et qui vient nous parler de la fête en ces temps de désespoir dans la viticulture. Je salue aussi l'équipe de Culture Vin, Anne Serre, Anne Schendorfer, Catherine Bernard qui va, j'espère, pas tarder à arriver, nous rejoindre dans les studios, et notre littéromane adoré, Florent Robin. Yvon Pelé, bonjour. J'imagine qu'avant de parler de cette 6e édition de la fête de la vigne et du vin, vous avez un commentaire à faire sur la situation des vignerons dans le Midi.
Bonjour, oui, la situation dramatique des viticulteurs du Midi et de notre belle région. J'étais à la manifestation avant-hier, donc, et puis les 6000 personnes présentes, donc, apportaient le témoignage de ce désespoir.
Alors, je disais en introduction que j'accueillais l'équipe aussi de Culture Vin, mais j'ai oublié parce que Michel nous fait la surprise, Michel Raymonda, d'être là avec nous. Michel, cette situation de la viticulture, tu as des commentaires à faire dessus ?
Ben, c'est une situation paradoxale au moment où depuis 2000, la consommation de vin progresse dans le monde, partout, parce que, enfin, pour des raisons différentes, mais un peu partout, on s'aperçoit qu'il y a de nouveaux consommateurs, de nouveaux pays qui viennent au vin, et globalement, la consommation de vin progresse dans le monde. Donc c'est très paradoxal qu'ici, en Languedoc, mais c'est dans toute la France aussi, que les vignerons soient autant en difficulté.
Qu'est-ce que Yvon Pelé, faire la fête dans cette situation, vous avez le cœur y est.
Le cœur y est, parce qu'il ne faut pas baisser les bras. La fête, c'est 44 vignerons, viticulteurs, caves coopératives et caves particulières de l'agglomération qui, pour la sixième année, se trouvent sur la place de la Comédie. Ces viticulteurs présentent leurs produits, donc c'est quelque chose d'important. C'est un moment fort et les viticulteurs sont toujours présents 6 ans après. Donc c'est un symbole par lequel on voit que les viticulteurs sont intéressés par cette belle vitrine qu'est la fête des vignes.
Alors donc ces rassemblements regroupent plusieurs dizaines de milliers de personnes chaque année, hein, et donc d'un côté on parle de baisse de consommation, mais d'un autre côté il y a quand même aussi un nombre croissant de gens qui vont vers ces fêtes autour du vin.
Mais je crois qu'il ne faut pas se réfugier derrière la baisse de consommation. La baisse de consommation, bon, il y a des statistiques, il y a des chiffres, mais ce qu'il faut, c'est savoir faire connaître ce produit. Et on s'aperçoit sur cette fête des vignes que l'on a toujours de plus en plus de jeunes, et des jeunes qui viennent pour apprendre, pour connaître, pour savoir la traçabilité, pour connaître l'élaboration de ce magnifique produit qu'est notre vin. Donc je crois que baisse de consommation, ok, les statistiques, on peut en parler, on peut faire dire aux chiffres ce que l'on souhaite, ce que l'on veut des fois aussi, mais opération marketing, opération communication, et mon critère de base, c'est que les jeunes aiment le vin.
Alors, donc baisse de consommation, on relativise, d'accord. Pendant cette manifestation des viticulteurs à Montpellier, il y avait quand même mis en avant, enfin en accusation en tout cas, aussi on y revient, la grande distribution, hein, avec des marges qui, justement, limitent peut-être l'achat. Michel, quelque chose à dire là-dessus ?
Ben, je crois que c'est tout. Si on compare ça au sport, c'est toute une équipe qui joue mal. Hein, c'est-à-dire.
Et Vlan.
Et oui, et tout le monde, quand on joue mal,
Michel est
on finit par perdre. Et quand on perd, on s'engueule. Donc c'est assez normal et assez logique que les vignerons se révoltent contre les distributeurs de vin, contre leurs œnologues. Enfin, il y a tout un tas de discussions fortes entre eux parce que l'équipe joue mal. Et pourtant, il y a des bons joueurs. Je crois que dans le monde du vin, on a fait énormément de progrès. Les vignerons sont devenus de bons vignerons. Je pense que les collectivités publiques aussi sont plutôt des bons joueurs et font énormément d'efforts pour la viticulture. Donc on peut se demander pourquoi ça ne fonctionne pas. Alors je crois que c'est le jeu globalement qui ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'on joue mal, on n'a pas trouvé la bonne solution. Alors je ne vais surtout pas dire ça pour la fête des vignes, pour d'autres réussites par exemple comme les estivales, qui sont vraiment des succès pour les consommateurs, pour justement donner un autre univers au monde du vin. Surtout quand on s'aperçoit, comme vous le disiez, Monsieur Pelé, que ce sont surtout les jeunes qui sont là, qui sont à ce rendez-vous-là. Hein. Ce n'est pas que des jeunes, mais beaucoup de jeunes consommateurs qui découvrent le vin, qui savent l'apprécier, qui l'analysent différemment aussi. Et là, j'en viens, parce qu'on a parlé de marketing, et peut-être parce que cette crise dure en France, c'est parce qu'on n'a jamais fait le bon diagnostic. On n'a pas eu le temps de le faire, à mon avis. Certes, il y a le marketing. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? On ne connaît pas ses consommateurs. Un des grands problèmes du vin, je pense, c'est qu'aujourd'hui, on connaît mal les attentes des consommateurs modernes. On les a connus jusqu'à la fin des années 90. On savait bien qui buvait du vin, comment. Aujourd'hui, c'est très différent parce que ce consommateur est mondialisé. Il change, il est nouveau, néophyte, débutant. Ou tout simplement, il a changé parce que les modes de vie changeant, le vieux consommateur est devenu aussi différent.
On va faire une petite pause en écoutant les Azous qui vont peut-être nous donner envie de faire la fête, et on va parler de la fête de la vigne et du vin après.
Un homme pouvait être blanc ou noir, jaune ou rouge, et puis c'est tout. Mais une autre race est en train d'apparaître. C'est les Azous, c'est les Azous. vocale qui monte jusqu'aux amygdales, avec un veston qui descend jusqu'aux genoux, les cheveux coupés jusqu'à l'épine dorsale. Voilà le zazou, voilà le zazou. Il y a des zazous dans mon quartier. Moi je le suis déjà à moitié. À votre tour, âme de séjour, vous serez tous zazous comme nous, car le zazou c'est contagieux. Ça commence par un tremblement qui vous prend soudain brusquement, et puis on pousse des hurlements. Si vous rencontrez un jour sur votre passage un particulier coiffé d'un fromage mou, tenant dans ses doigts un poisson dans une cage, c'est un zazou, c'est un zazou. Si votre épicier vous dit j'ai de gruyère, mais malheureusement il ne reste que les trous, ne supposez pas qu'il fuit de la cafetière. Il est zazou, il est zazou. Il y a des zazous dans mon quartier. Moi je suis déjà à moitié. Un de ces jours ça vous prendra. À son futur genre d'avant-hier, ma concierge disait, voyez-vous, ma fille est un bijou. Elle est encore mieux que si elle était vierge. Elle est zazou, elle est zazou. Et en prenant le train, j'ai vu le chef de car qui m'a dit, mon chat, je suis plus cocu du tout. Je suis quelque chose de beaucoup plus rare. Je suis zazou, je suis zazou. Il y a des zazous dans mon quartier. Moi, je suis déjà à moitié. Un de ces jours, ça vous prendra. À la société, devant payer sa dette, devant la guillotine, j'agène, il dit, je m'en fous. Il y a déjà longtemps que j'ai perdu la tête. Je suis zazou, je suis zazou. Avec une mondaine de la place Pigalle, mon ami Léon a fait les 400 coups. Ça lui réussit qu'à pour ses 25 balles. Il est zazou, il est zazou. Il y a des zazous dans mon quartier. Moi je suis déjà à moitié. Et à mon tour, un de ces jours, on finira par m'amener dans un asile d'aînés. Entre zazou, on s'y retrouvera. Car c'est fou ce qu'on rigolera. Quand je me la douche, on chantera comme ça. Voilà tout de suite.
Alors, trois jours pour s'offrir des verres de contact, comme le titrait l'héros du jour pour annoncer la fête de la vigne et du vin sur l'agglomération de Montpellier. On va s'offrir des verres de contact, alors. Hein, les gens vont se rapprocher les uns des autres. Le froid arrive, on va se réchauffer autour de vins chauds. Non,
pas autour de vins chauds. Bon. On va se réchauffer autour de nos vins, de nos vins blancs, de nos vins rosés, de nos vins rouges, hein, de tout ce qui fait la qualité de ce terroir, quoi. Hein. Là, nous allons, si vous voulez, comme je vous dis, vous avez 44 viticulteurs qui sont sur la Comédie, un véritable village vigneron, et les gens présentent leurs produits. Et donc, toutes les composantes du produit sont présentées. Et puis, dimanche, les visiteurs pourront aller dans nos villages, visiter nos caves, aller sur le terrain, voir comment s'élabore ce produit.
Alors, c'est la première année que vous décentralisez parce qu'en fait, le gros de la fête est sur la place de la Comédie.
Ah non, la fête, depuis sa création... Depuis qu'elle a été créée, cette fête, quand on l'a créée donc en 2003 ou 2004, donc c'est la sixième année, vendredi, samedi, le village vigneron sur la place de la Comédie, et dimanche, le retour dans les villages. Et là, le dimanche, c'est le visiteur qui vient dans les villages. Parce que dans les villages, on a l'occasion de venir voir les vignerons et puis de voir nos beaux villages de l'agglomération.
Alors, dans ces villages, ce sont des caves coopératives, des caves particulières. Il y a quelque chose de particulier qui se passe. Ils ont fait venir des fanfares ou simplement ils ont ouvert leur caveau. Ils vont, dans toute humilité et tout à fait simplement, faire découvrir leurs produits et parler de leur métier.
Non, chacun fait son animation. On laisse le libre choix. Donc, sur le programme, vous avez le programme de ce qui se passe dans chaque caveau. Ce sont des particuliers, des caves coopératives. Chacun organise son programme pour accueillir au mieux le visiteur.
Alors, comment ça se passe, cette fête de la vigne et du vin? Je vais aller sur la Comédie. Je vais voir quoi? Des tas de producteurs, un bar. J'y suis pas allé encore, donc il faut que j'y aille. Qu'est-ce qu'on a? On achète un ticket, c'est payant, c'est gratuit, c'est...
J'allais dire, vous auriez déjà dû y aller depuis les 5 dernières années.
J'ai tout le monde à ses seuils d'incompétence, c'est insuffisant. Je n'y échappe pas.
Donc vous allez y aller cette année, vous arrivez donc sur la place de la Comédie, vous avez le village Vigneron autour de cabanes, c'est des cabanes de gardiens, c'est des chalets que l'on loue en même temps avec la mairie de Montpellier pour les fêtes de Noël, quoi. Et donc là, vous achetez un ticket, 2 euros, vous avez droit à 3 dégustations et plus éventuellement 6 convenances gratuites. On vous donne un verre et vous faites le tour des différents producteurs. Et donc là, vous allez discuter, vous allez voir un petit peu chaque producteur qui va vous parler de son produit, vous faire goûter son produit.
D'accord. Michel, une initiative comme ça, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure.
Le vin, ce n'est pas un plaisir solitaire, le vin, hein, forcément. C'est quelque chose qu'on partage. Donc là, il y a une première rencontre avec le vigneron. Hein, c'est donc, on va pouvoir échanger avec le vigneron. On apprend toujours. Je crois que c'est assez essentiel, ce concept d'éducation dans le vin. On n'en sait jamais assez sur le monde du vin. C'est un monde un peu infini, en tout cas dans sa connaissance. Moi, je le perçois comme ça, dans la mesure où je me sens encore très débutant. L'échange, puis c'est l'échange avec les autres qui sont là, partager, donner un avis. Enfin, finalement, c'est juger. Et c'est ça qui aussi est intéressant, toujours pour se perfectionner.
D'accord.
Le vin, c'est le bien vivre, hein, et c'est la convivialité. Voilà, je crois que les deux critères de base dans la définition du vin, c'est le bien vivre et la convivialité.
Oui, d'accord. Alors c'est aussi autre chose. Tout à l'heure, on écoutera par exemple des textes magnifiques. C'est aussi de la culture, c'est de l'histoire, c'est tout ça. Mais peut-être qu'il faut à des moments simplement oublier l'intellectualisme et rester simplicité, plaisir, convivialité, etc. Alors,
c'est une histoire qui est en train de s'écrire aussi aujourd'hui et on est en train de changer de paysage socio-culturel au niveau de la vigne. Hein. Si je reviens un petit peu à la crise dont on parlait et qui est là, donc on va pas éluder tout le temps le sujet, c'est que en même temps, il y a une disparition d'une certaine façon de peut-être de faire du vin aussi, non ?
Alors, j'ai envie de dire, d'abord, c'est peut-être dans les raisons de cette crise, c'est qu'on a beaucoup, beaucoup d'acteurs encore en France. On est extrêmement... je dirais que la filière est presque trop grande, surtout si on se compare. Si on se compare à nos voisins, par exemple, les Espagnols, qui aussi ont leurs difficultés, mais il y a simplement 4000 bodegas, donc 4000 fabricants de vin, 4000 producteurs de vin. Nous, en France, il y a encore 80 000 acteurs, 80 000 producteurs de vin.
Tu as dit « encore ».
Il y a encore. Mais je crains, hélas, que ça va beaucoup se réduire. Alors, je pense pas je suis pas pour les grandes exploitations, forcément. C'est pas ça que je veux dire. C'est que simplement, le pouvoir de décision, le pouvoir d'action, l'action marketing commerciale est extrêmement dispersée. Et ça, je pense qu'on n'échappera pas fortement à une restructuration, à une réorganisation. On manque, comme dans l'industrie, d'acteurs moyens. On en a quelques-uns, des gens capables d'exporter. Si dans la région, on a par exemple une entreprise comme Jean-Jean, qui est au tout premier rang des entreprises françaises pour exporter les vins, parce qu'elle a cette taille-là. Quand on est vigneron isolé, indépendant, avec ses 10 hectares, c'est parfois difficile d'aborder des marchés lointains. Alors on peut s'organiser, mais ça reste limité. Il faudra bien à un moment des entreprises de taille moyenne, bien plus nombreuses que ce qu'on a, pour faire ce boulot.
Est-ce que ces entreprises de taille moyenne se retrouvent sur la fête de la vigne et du vin ?
Ces entreprises de taille moyenne, au point de vue producteur, vous avez sur la fête de la vigne, la fête des vignes, vous avez tous les différents, puisque vous avez du particulier, du petit particulier, jusqu'à la cave coopérative. Mais je crois qu'il faudrait surtout aussi que la profession, d'une manière générale, s'unisse, parle un seul langage. Moi, mon sentiment, on a trop d'interprofessions, de petits précarés où chacun revendique sa place et chacun ne veut pas perdre sa place. Je crois qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir un label, le label Sud de France. Le label Sud de France, il est là, il est reconnu. Vous l'avez dit tout à l'heure, les politiques sont prêts à mettre du pognon. Les politiques mettent de l'argent. Que ce soit la région, conseil général, agglomération, tout le monde est prêt à travailler. Mais il faudrait que tout le monde travaille dans un seul sens. Que l'on se mette derrière ce label Sud de France. Après, on peut décliner vin de Saint-Georges d'Orque, de Saint-Geniès-des-Mourgues, de Pignan, de ce que vous voulez. Mais je crois qu'il faudrait avoir un langage unique, puis que ces interprofessions arrêtent un petit peu ces petits précarés, ces petits trucs où l'on dit « c'est moi qui ai fait ça ». Non, il faut parler « nous ». Il y a une crise, il faut parler global.
Donc, si je vous suis bien, ça voudrait dire que, par exemple, Languedoc-Roussillon, 22 pays d'oc, comité interprofessionnel des vins du Languedoc, vous voulez comment ça se passe? Vous voulez que tout ça soit redimensionné?
Vous savez, quand on est sur Bordeaux, on parle Bordeaux. Quand on est sur Bourgogne, on parle Bourgogne. Donc après, ça n'empêche pas d'avoir des différents châteaux, différents domaines, etc., etc. Mais parlons un seul langage et travaillons ensemble. Arrêtons de s'embrasser par devant et de se mettre des coups de couteau dans le dos par derrière.
Oh là, mais mon Dieu, mais ça se passe comme ça aussi dans le monde du vin. Mais c'est non. Partout, c'est terrible, non, c'est terrible.
Je suis excessif, je suis un bon méditerranéen, je suis toujours excessif, c'est vrai.
C'est bien. Et vous, alors vous êtes maire de Saint-Géniès-des-Mourgues, hein, vous citiez la commune, il y a combien de producteurs sur Saint-Géniès-des-Mourgues,
on a une cave coopérative qui, comme toutes les caves coopératives, donc, subit la crise. Mais les viticulteurs à Saint-Géniès-des-Mourgues ne baissent pas les bras, par exemple. Donc aujourd'hui, ils s'attaquent au marché de la Chine. C'est vrai que quand un petit village comme Saint-Géniès-des-Mourgues parle de ces choses-là, ça peut prêter à sourire.
Merci, mais, Sud de France.
Mais non, voilà, donc Sud de France a été là. Nos viticulteurs, on les a branchés, donc on les a. C'est un peu mon rôle aussi, politique, oui. de les faire venir vers Sud de France. Donc nos viticulteurs ont bien compris. Et aujourd'hui, je prends le président de la cave, et bien cette année, ça fait pratiquement, il a passé 30 ou 35 jours en Chine. Donc, pour décrocher des marchés. Et ces marchés, mais il faut le faire. Il faut aller en Chine, mais il faut aller en France. Il faut se battre. Il ne faut pas dire c'est la crise et puis baisser les bras. Je crois qu'il faut aussi se battre et partir, envisager de bonnes solutions marketing, faire connaître ce produit, mais y aller avec un seul langage. Arrêtons de nous diviser à l'intérieur d'une même région.
D'accord. Donc quand je vous écoute, j'ai presque envie de dire que la manifestation qu'il y a eu il y a quelques jours à Montpellier concernant la détresse des vignerons, c'est peut-être pas la meilleure façon de trouver des solutions à cette filière.
Non, là,
je pousse un peu le bouchon,
c'est normal, c'est votre jeu. Non, je crois que la manifestation, j'y étais, j'y ai participé, et quand j'entends Vergne s'exprimer, je suis totalement solidaire avec Vergne. C'est vrai que nos pouvoirs politiques aujourd'hui, excusez-moi, les mesures qui ont été prises, comme je dis toujours, c'est un cataplasme sur une jambe de bois, quoi. Hein ? Donc c'est vrai que si on veut, on vous dit, on fait grâce des intérêts, Des remboursements d'emprunt, ok, d'accord, qu'on fasse grâce, mais enfin, le principal à rembourser, je travaillais en la banque, c'est quand même le capital. Et si, avec le produit avec le produit de la vente du vin, on n'arrive pas à rembourser le capital, on peut vous faire un cadeau des intérêts et de tous les moratoires qui arrivent derrière. Non, je crois qu'il faut que le vin retrouve un prix décent. Vergne le disait, le prix à l'hecto est le même qu'il y a 25 ans. C'est pas normal. C'est pas normal. Mais je crois que bon, là aussi, la grande distribution et le négoce doivent jouer le jeu en termes de prix. Parce qu'il n'y a qu'à voir aujourd'hui, la grande distribution, par exemple, vous y allez, vous payez cash, ils paient les producteurs à 180, 250 jours. Et encore, en plus, si vous partez aujourd'hui dans les galeries de Auchan, Carrefour ou Leclerc, vous avez, avec un avis d'imposition, on vous fait du crédit. Donc ça veut dire que le fric qu'ils ont, ils le redistribuent, ils font du crédit en plus. Alors, donc au lieu de faire du crédit, qu'ils mettent les 0,15 centimes dont parle Vergne, qu'ils le mettent dans la balance, et je crois que les choses s'arrangeraient.
C'est vrai que tu voulais dire quelque chose, Michel.
Bah, c'est une question assez universelle, quoi, qui se pose au début de ce millénaire. C'est est-ce qu'on va pouvoir augmenter le prix des produits agricoles, que ce soit pour le vin, que ce soit pour le lait? On vient de vivre les mêmes problèmes. Pendant des années, pendant cette époque plutôt de croissance qu'ont été les 30 dernières années du siècle précédent, on a tout fait pour réduire, je dirais, le panier de la ménagère. Et c'était assez compris par tout le monde, c'est-à-dire qu'on essayait de dire il faut dépenser moins pour se nourrir. Et on vient, en ce moment, on est en train de comprendre qu'on est allé trop loin, on est incapable de répartir les richesses tout simplement alimentaire dans le monde, parce qu'on paye trop peu cher les produits agricoles. Et dans le vin, on est presque dans le même scénario, même si le vin, c'est évident, a d'autres connotations. C'est quand même, aujourd'hui, pour les vignerons, pour les agriculteurs, arriver à s'imposer, à réconcilier leur agriculture avec les consommateurs. Il faut qu'il y ait ce langage direct, et on revient au fait, par exemple, pour qu'un consommateur puisse dire, oui, il faut que j'accepte de payer plus cher.
Ah, ça, c'est pas gagné. Hein.
Ben oui, c'est pas gagné.
Que le consommateur décide.
C'est pas gagné, mais je pense que c'est un choix assez déterminant dans la société.
Ouais. Le produit aurait pas à être plus cher. Le produit, c'est la marge qu'il y a sur le marché. Donc, on achète un produit 1, on le revend 10. Si on le j'exagère sûrement, mais si au lieu de le revendre 10, on le revendait, on l'achetait 2 et qu'on le revende 9, en plus, le consommateur s'y retrouverait.
Marqué pour les restaurants, vous exagérez à peine. Hein. Des fois, on trouve des bouteilles à des prix assez intéressants quand on voit le coût d'achat, sachant que les restaurateurs ont en plus un prix négocié par rapport à la même bouteille en prix direct. Hein, si moi je vais dans un caveau chez un viticulteur, je sais, j'ai fait l'expérience. Alors je vais chez un gars, je prends un carton de 6 bouteilles de vin rouge, admettons, je ne sais pas, un certain prix. Eh bien, je suis restaurateur, je veux le même carton, je vais le payer moins cher que le particulier qui s'est déplacé au caveau, parce que je suis un restaurateur, que je fais les commandes suivies, etc. Mais moi, le même client, je vais dans ce restaurant qui a pris ce truc, et je vais voir cette bouteille de vin présentée à un prix de nectar, qui me donne l'impression que je vais faire un voyage extraordinaire. Or, des fois, je suis forcément déçu, puisqu'entre le prix que je paye et ce que je trouve dans mon verre, il y a un tel décalage que donc, du coup, pour m'éduquer au vin et au plaisir du vin, je l'ai un peu en travers. J'avais une question à vous poser, justement, à propos des vins, de leur qualité, de leur nectar. Est-ce que pendant la fête de la vigne et du vin, il y a des... Peut-être que la question est un peu conne, mais est-ce qu'il y a des stars? Est-ce qu'il y a des vins qui sont plus en avant que d'autres, là, sur l'agglomération, par exemple, de Montpellier?
Vous me dites la question.
Est-ce qu'il y a un tabou, là?
Vous me dites la question est un peu bête et je vais répondre de la même façon. Il n'y a que des stars sur la Comédie.
C'est bien vu. Mais bon, ça s'appelle une touche. Quelque part, ça s'appelle une touche. Vous n'êtes pas un... Vous êtes donc un fin politique, Yvon Pelé. C'est la première fois qu'on se rencontre, mais ça y est, je le sais. Donc, il n'y a que des stars à la fête de la vigne et du vin. Rappelez-moi, on revient un petit peu sur cette fête. C'est vrai que... On est amené à parler du contexte viticole dans son ensemble. Il faut quand même, moi j'ai quand même envie qu'on donne envie. Moi-même je vais y aller. Je suis pas allé ce matin, mais je vais y aller. Donner envie d'aller à cette fête de la vigne et du vin. Et ça, c'est sur quelle amplitude? Ça finit tard le soir? Ça s'arrête à 20h?
Voilà, ça s'arrête à 20h. La fête commence à 10h, s'arrête à 20h.
C'est raisonnable.
C'est raisonnable. Puis de toute façon, bon, la période de l'année où nous nous trouvons, vous voyez, vous parlez des estivales. Les estivales se terminent beaucoup plus tard, c'est l'été. Là, à 20h en hiver, donc je crois que c'est le moment de fermer, quoi. Puis, cette fête, c'est une fête sur la qualité. C'est pas une fête, c'est pas le bar à gogo où l'on va boire du vin sans l'apprécier. Là, non. Je vous le disais, et on voit beaucoup de jeunes, c'est ce qui nous fait plaisir depuis le début, des jeunes qui reviennent, des jeunes, des moins jeunes, enfin. Mais ça, on a pas mal de jeunes là-dessus.
Oui, moins jeunes, vous pouvez aller aussi à la fête de la vie.
Oui, j'ai moi-même 57 ans et puis je trouve toute ma place.
Mais 57 ans, vous êtes jeune, vous savez qu'on va tous faire centenaire au minimum.
Mais c'est vrai qu'on veut... On veut que ce soit une fête de découverte du produit, une fête de goût, que ce soit une fête de connaissance et que ce ne soit pas la fête à neuneux, quoi.
Oui, alors cette dégustation, ça n'engagera que moi les propos que je vais tenir, mais ça pourrait être l'occasion aussi de renforcer ses défenses immunitaires, de prendre un petit peu d'anthocyane comme ça, un petit peu de vitamines, d'oligo-éléments dans quelques petits verres de vin. Et peut-être les gens oublieront de se vacciner. C'était peut-être pas la chose la plus intéressante à dire, mais ces temps de parano total.
Peut-être qu'on fera la queue comme pour les vaccins hein, à la fête.
Mais ouais, il y a la queue au fait, parce que 100 000 personnes j'ai vu l'an dernier.
À la fête, vous passez devant les différents vignerons, vous avez la queue. Vous avez la queue. Et puis la fête, comme je dis toujours, moi, le vin, on dit le boire avec modération. Non, moi, je dis il faut le boire avec sagesse. Parce que le vin, c'est aussi la sagesse. Et le vin, on sait, on ne boit pas du vin comme on fait aujourd'hui avec tout un tas d'alcool fort. Et là aussi, c'est important d'apprendre les jeunes. Je le vois dans les bars de village. Dans les bars de village, auparavant, à l'apéritif, vous aviez toujours les mêmes couleurs. Ricard 51, la couleur jaune, quoi. Hein. Et puis bière, etc. Aujourd'hui, vous avez de plus en plus, dans les bars de village, des gens qui boivent du blanc, du rosé, du rouge, etc. Ça, c'est un bon signe.
Et le rosé qui monte.
On a fait la première fête cette année au niveau de l'agglomération des blancs et des rosés au mois de juin. Et en juin 2020, 10, le troisième dimanche, on va refaire la fête, la seconde fête des blancs et des rosés.
Yvon Pelé, merci d'être venu nous voir. On va se quitter pour l'instant sur Culture 20 avec une ode à Bacchus. On est dans la fête, l'ode à Bacchus de Miguel Torga que va nous lire Florent Robin tout de suite après. Merci.
Oui, Miguel Torga, écrivain portugais qui allie trois choses que j'aime particulièrement, la poésie, le vin et le Portugal. Et il a écrit, il était médecin de campagne, Miguel Torga, donc il allait dans les petits villages reculés pour soigner les personnes qui en avaient besoin. Et donc il a écrit une ode à Bacchus. Je vais te chantant, Bacchus, non pour la cueillette d'aujourd'hui qui est infime, mais pour celle de demain, combien plus grande. Je pose sur tes cornes ces fleurs qui ne prétendent être ni lyriques ni pures, mais sont sincères, humaines et mûres. Je vais te chantant et chante le soleil, la terre, l'eau, le feu et la sueur. Et je lève mon chant comme lève sa houe le laboureur. Là, dans cet Olympe en gradin, unique Olympe éthéré auquel je crois, je me prosterne, me rends et te répète que tu es éternel, plus que Dieu et plus que son mythe. Je te baise les pieds, ces sabots de bouquin. Je regarde tes yeux pupilles fendues et sachant que tu es faune ou satyre ou démon, je sais que tu n'es ni mensonge ni légende. Dionysos du Douro, poil au pubis comme un homme, mains calleuses et dures, ivre du vin nouveau et de gaieté, qu'il soit obscur, nuit ou jour ensoleillé. Grappe de raisin noir de chaque côté de la marque universelle de la nature. Elle, rouge étendue, expression de la vie, la beauté, toujours à sa place, dressée. Des feuilles de muscat sur les épaules, sur les reins, sur les bras, et partout où le sang sait qu'il y a un chemin, et la terre et la tête couverte d'un parfum de semences et romarin. Une flûte de roseaux, joyeuse et musicale, module à la sensuelle respiration du soufflet vigoureux de ta poitrine. Plus ta force est virile et animale, et plus tu es humain. Voici mes vers, donc, enfants d'août et de schiste béant, des vers que je n'ai pas mesurés, que je n'ai pas comptés, mais que rend juste l'ardeur sacrée avec laquelle je te les ai donnés.
Precious things soon get lost up on the tracks when two paths cross. The lover I had is with another today. Tomorrow came when she went away. She was a diamond in the vein. A crimson flower in the brain. I picked my rose for the thorns. Get so easily torn. I picked my rose for the thorns. I know lives get so easily torn. The years have come, the years will go, and then with time the years will show. I was too young then, I'm too old now. Oh, what I'd give to have them back somehow. She was a diamond in the vein. A crimson flower in the brain. I picked my rose for the thorns. And lives get so easily torn. I picked my rose for the thorns. I know how hearts get so easily torn. Shot. I knew grace until it stopped.
Christian, pensez-vous qu'il est possible de faire de l'œnotourisme dans le cœur de Montpellier ?
Alors, dans le cœur de Montpellier, je sais qu'il y a des vignes dans le cœur de Paris. Hein,
oui, il y en a.
Mais je ne connais pas celle du cœur de Montpellier. Donc, je dirais oui, peut-être, en allant à la fête de la vigne et du vin sur la Comédie tout à l'heure.
Entre autres. Mais je vous confirme qu'on peut faire de l'œnotourisme au sein de notre ville Montpellier. Donc il faut savoir que dans le cœur de la capitale du Languedoc, subsistent trois domaines à découvrir. Donc nous avons le domaine des Quatre Vents avec Bernard Astruc, qui est au milieu du quartier du plan des Quatre Seigneurs. Ensuite, nous avons deux folies montpelliéraines avec le domaine de Rieux-Coulon, qui se situe au bout de l'avenue de Toulouse, sous le quartier de l'Ovalie. Donc j'ai eu l'occasion de rencontrer ce jeune couple de viticulteurs Anne et Benoît Lacombe dans ce magnifique domaine qui date du XVIIe siècle, surannée et magique. Alors moi je vous conseille d'y aller sans hésiter, le caveau est ouvert du lundi au samedi et vous trouverez toutes les informations sur rieuxcoulon.com. Le troisième domaine, le plus connu peut-être, est le château de Flaugergue au sud de Montpellier, à un jet d'Odysseum, que je suis allée visiter pour vous. Écoutons Pierre de Colbert, vigneron de la 10e génération, nous parler de sa folie montpelliéraine.
Flaugergue est une folie montpelliéraine. Donc c'est ce qu'on appelle la folie montpelliéraine, c'est la maison, on va dire la maison construite dans les feuillages, pour résumer le terme folie. C'est pas les fous, hein, c'est pas un hôpital psychiatrique. C'est donc une folie qui a été construite, on va dire fin du 17e mais début du 18e siècle, très précisément en 1696. Par Étienne de Flaugergue. Donc Étienne de Flaugergue est mon ancêtre, on va dire en ligne directe. J'ai la chance, moi, avec mes parents et mes enfants, d'être un des maillons de la chaîne. Et en l'occurrence, je suis le 10e maillon, puisque je suis la 10e génération. Et effectivement, mes parents sont à la 9e. Voilà. Donc ce lieu est une folie dans le sens où c'est... Alors, d'aucuns diront que c'est un château, mais c'est surtout un peu inspiré de la Villa Palladienne, donc la villa en Florentine, avec un lieu qui est pour... Mes ancêtres, au moment de la construction, ont un lieu de villégiature, 3-4 mois dans l'année, en dehors de la ville, en dehors de leur hôtel particulier, dans lequel ils résident principalement. C'est un lieu qui est à la fois privé, donc dans lequel mes parents habitent toute l'année, et qui est aussi ouvert au public. Parce que, comme je disais tout à l'heure, on accueille 30 000 visiteurs par an. Donc ça, c'est aussi une particularité, c'est que Flaugergue est le seul lieu qui fonctionne de cette façon, dans le sens où il continue à faire ce qu'il faisait au départ. C'est-à-dire que non seulement on vit dans le lieu, comme c'est le cas de beaucoup de folies alors aujourd'hui encore dans Montpellier, mais la plupart ont arrêté la production de vin ou la production agricole. Nous avons réussi à la maintenir, j'ai dit bien réussi pour le moment, à la maintenir, et on a à cœur de conserver cette activité-là, qui donne un sens au lieu. C'est-à-dire que le lieu, en lui seul, ne se suffit pas. Il faut qu'il y ait une famille, plusieurs familles qui y vivent, donc mes parents, moi, ma femme et mes enfants. Donc ça, c'est important. C'est aussi un lieu qui était historiquement rural, mais maintenant est urbain. Comme on n'imagine pas, mais Flaugergue se situe un peu caché entre le Zénith, Ikea et Odysseum, voilà, juste en face de la caserne des pompiers, sur l'avenue Albert Einstein. Voilà, on a une situation à la fois privilégiée et à la fois complexe, donc d'être des ruraux dans la ville.
Voilà, donc caché dans les feuillages. Pour le prix d'une place de cinéma, c'est-à-dire 8 euros, vous pouvez visiter le château. Hors période estivale, c'est sur rendez-vous. Vous baladez dans les jardins, ils sont ouverts toute l'année. Et dégustez les vins au caveau. Faisons un détour par le caveau.
Voilà, alors c'est un caveau, c'est un endroit qui est considéré par la majorité des visiteurs comme un endroit chaleureux, même s'il présente la caractéristique majeure de tout ce qu'il y a à Flaugergue, c'est-à-dire de l'ancien. Donc ce sont des vieilles pierres avec des voûtes, très jolies voûtes, un sol pas en terre battue quand même, mais dans un béton qu'il va falloir un petit peu réaménager. Et en fait, historiquement, c'était la salle où on faisait le pressurage des moûts. Donc on voit encore dans le coin d'une porte la vis sans fin qui était utilisée et des différents éléments du pressoir. Donc c'était un lieu qui a une histoire aussi propre qui est liée au fait que c'était effectivement un lieu de vinification et de vie pour le vin à l'origine. Et maintenant, on y accueille effectivement les gens qui viennent acheter leur billet de visite ou qui viennent aussi déguster. Mais en règle générale, on essaie de toujours offrir aux gens la possibilité de découvrir nos vins, même si le but principal était de découvrir un lieu historique.
Alors n'hésitez pas à aller découvrir ce château. Vous pouvez également organiser un événement, mariage, séminaire, même des anniversaires. Et bientôt, vous pourrez manger sur place. Pour vous, je suis également allée faire un vino rallye. Alors Quesaco, le principe est simple. Vous découvrez en une soirée trois lieux et vous dégustez trois types de vins différents. Le rendez-vous, donné un mardi soir à 20h, était au Corum. Et là, caché dans le jardin archéologique qui jouxte le Corum, nous avons dégusté les vins du domaine Magellan à Magalas en compagnie d'Angel Plata. Suite de l'itinéraire, au Casa 112, et cette fois, c'est le fils Christophe, du domaine familial Le Pouèche à Saint-Clément-de-Rivière, qui nous a fait découvrir ces vins. Pour finir, nous sommes allés au Baron Rouge où Philippe, l'organisateur du Vino Rallye, nous a expliqué qu'il valait mieux boire du vin blanc avec le fromage. On le sait, peut-être, enfin à chacun sa religion. Écoutons un des participants, Baptiste, 28 ans, podologue, nous parler de la soirée. Baptiste, pourquoi est-ce que vous êtes venu ce soir au Vino Rallye ?
Avant tout, c'était parce que c'est un cadeau qu'on m'a offert, donc je devais être là, et que j'ai toujours aimé le vin, je voulais découvrir un peu plus précisément une autre manière de déguster, de voir le vin, et de bouger dans des endroits différents, si je suis super sympathique.
Donc, qu'est-ce que vous aurez retenu de cette soirée ?
La bonne ambiance déjà, et puis... des surprises surtout au niveau dégustation du vin et du fromage, j'ai trouvé assez, assez particulière.
Est-ce que vous conseilleriez Vino Rallye à des gens qui ne connaissent rien au vin ?
Oui, complètement.
Et à ceux qui y connaissent en vin ?
Ceux qui s'y connaissent vraiment beaucoup en vin, je pense que ça peut leur permettre de découvrir de nouveaux domaines, de nouveaux vins, mais pas forcément de découvrir une autre façon de voir le vin.
Voilà, donc les Vino Rallye ont lieu un mardi par mois. Ils coûtent quand même 35 euros par personne. Vous trouverez toutes les dates sur www.vinorallye.com. Donc pour finir, l'agenda a dédié cette semaine lui aussi à l'œnotourisme dans Montpellier. Donc avec un événement qui, d'un point de vue de consommatrice, n'est pas à manquer, parce que je l'apprécie énormément et je vais y aller donc pour la sixième fois. Je parle bien sûr de la fête des vignes. Donc on en a déjà pas mal parlé en début d'émission. Enfin, on peut donc signaler qu'effectivement, on peut rencontrer 44 vignerons à ces places de la Comédie. On peut aussi aller visiter le musée Fab sur le thème de la vigne et le vin dans les collections. On peut participer à des conférences, à des dégustations. Par exemple, demain ou cet après-midi à 16h, vous pouvez tester une dégustation à l'aveugle. Et demain, vous pourrez vous initier à les dégustations. On peut jouer au casino des vins. Bref, il y a plein d'animations à découvrir dans le détail sur montpellier-aglo.com. En plus, je le répète, c'est pas cher. Et on fait une bonne action puisque les 2 euros pour déguster 3 vins seront reversés entièrement au site d'action. Donc le dimanche, je vous encourage aussi à aller pousser la porte de ces domaines qui participent à cette manifestation. Voilà, donc je vous souhaite de bonnes découvertes touristiques au cœur de Montpellier. Et si vous organisez des événements, n'hésitez pas à nous le faire savoir.
Merci Anne, c'était la chronique œnotourisme d'Anne Schoendorfer. Et sans transition, je me tourne maintenant vers Catherine Bernard. On croyait tout à l'heure que tu n'arriverais pas. Des problèmes de transport, Catherine ?
Non, j'ai juste raté le tram.
Ah zut ! Alors quand on rate un tram, c'est terrible. Enfin, je suis ravi que tu sois là pour nous faire cette revue de presse que j'attends à chaque Culture Vin. De quoi vas-tu nous parler ? De quoi s'agit-il ? Qu'est-ce que tu as vu dans la presse et que tu veux nous raconter ?
Alors ces deux dernières semaines, il y avait beaucoup de choses. J'aurais pu et je pourrais vous parler de la crise parce qu'elle est là. Pas seulement dans le Languedoc, on en a parlé en début d'émission, mais aussi dans le Beaujolais. Je vais vous parler d'autre chose. Je vais vous parler des propos tenus par un critique britannique, Tim Atkin. Ça remonte à quelque temps. Il est dégustateur et chroniqueur pour The Observer et The Guardian. Ses propos ont été repris par Vitisphere. Et ses propos sont importants parce que c'est un monsieur qui fait un peu la pluie le beau temps sur le marché du vin et parmi les consommateurs. Alors, que dit ce Tim Atkin ? Écoutez bien. Alors, il nous dit, Excusez-moi, je reprends mes notes que j'ai...
Qu'est-ce qu'il nous dit, ce monsieur ? Pendant que Catherine est en train de chercher les propos, pour pas dire n'importe quoi...
Ils ne
sont pas oubliés dans le tramway, ils sont là.
Tim Atkins en a assez de risquer un tour de rein avec des caisses de 6 luxueuses bouteilles au poids ahurissant. C'est principalement, mais pas exclusivement, un truc de latin, dit-il. Les principaux coupables viennent d'Espagne, d'Italie et d'Argentine. Où toute winerie qui veut positionner son vin en icône le fait sur un monde macho, en commençant par rechercher pour la bouteille le verre le plus épais disponible sur le marché. La tendance s'emballe et j'ai décidé de ne plus recommander dans ces pages des vins conditionnés en bouteilles lourdes. Il n'y aura qu'une exception pour les champagnes et vins effervescents où l'épaisseur du vin est une question de sécurité imposée par le vin lui-même. Je n'hésiterai pas à donner des noms et à mettre la honte, ajoute-t-il. Il ne fait pas que dénoncer Tim Atkins. Il recommande 1. D'acheter des vins de winerie qui affichent un bilan carbone neutre. 2. De préférer les vins conditionnés en bib, tétrapack ou bouteilles allégées. 3. D'acheter britannique. Les vins des 407 wineries du Royaume-Uni n'ont pas à venir de loin. 4. D'acheter des marques qui soutiennent des éco-projets et des œuvres caritatives. Et cette tendance, cette préoccupation de l'environnement est une tendance assez importante que j'ai retrouvée encore dans la presse. Il y a eu la campagne de Greenpeace sur le réchauffement climatique. Et là, je lis... En Belgique, dans un site belge, que dans le prolongement de la journée de l'arbre, la locale écolo de Djémé-sur-Sambre, c'est un petit village, organise une distribution de pieds de vigne pour sensibiliser la population à la question du réchauffement climatique. Venez prendre votre pied, disent les promoteurs de l'opération, pour agrémenter votre jardin et discuter de ce que nous pouvons faire localement pour agir face à un problème global. On aurait tort de sous-estimer ces préoccupations écologiques. Une autre tendance qui est aussi à l'œuvre, très importante, et il y en a aussi été question dans cette émission, la Chine. C'est le nouvel Eldorado du vin. Donc, je lis dans l'AFP, Hugues Janot, le journaliste, est allé se promener chez un propriétaire chinois en Bordelais, Stéphane Tutunji. Il nous dit « Son ambition est de créer des vins complexes et raffinés, des nectars adaptés au goût et à la gastronomie des Chinois ». Je vous le donne en mille. C'est quoi un vin au goût des Chinois ? Dixit. Extraire les tanins sans faire un vin ultra tannique. Même chose pour le boisé. Les Chinois aiment le boisé, mais pas le surboisé. Pour se marier avec un canard laqué ou avec des saveurs aigre-douces, il imagine un vin complexe, sans rupture, soyeux, naturel, long en bouche. C'est beau le marketing, non ? Alors... Ah, et aussi d'actualité cette semaine, le palmarès du Wine Spectator. Alors le Wine Spectator, pour tous les amateurs, c'est The Revue au Wine, je l'ai déjà dit et j'en parlerai souvent parce que c'est un incontournable dans la presse du vin. Donc tous les ans, le Wine Spectator délivre son palmarès des 100 meilleurs vins. Alors il y a bien évidemment le meilleur vin du monde. Cette année, c'est un Américain. Je vous le donne pour information, il ne vient même pas de Californie, c'est une première, mais de Colombie, en Colombie. C'est un Cabernet Sauvignon de Columbia Valley, l'Oregon. Réserve de 2005. Et je vous donne aussi son prix parce que c'était dans ce débat sur les prix et la crise, $27. Le premier vin français qui vient dans la liste est numéro 3. C'est le vin d'un grand domaine de Châteauneuf-du-Pape, une valeur sûre, domaine du Vieux Télégraphe, ou si je ne m'abuse, je n'ai pas eu le temps de le vérifier, mais je crois qu'officie maintenant Kermit Lynch. Dont je vous ai déjà parlé, recommander les aventures. Et enfin, pour finir, il faut savoir que cette année, il n'y a que 13 vins français parmi les 100 premiers. Ce palmarès 2009 est donc un mauvais cru pour les vins français. Et puisqu'on est en Languedoc, un coteau du Languedoc a été sélectionné, numéro 31, Mas du Soleilla, dénomination La Clab, cuvée Les Bartels, 2007.
Merci Catherine. Alors Catherine Serre, tu viens toi aujourd'hui nous parler du goût du bois, copeaux ou tonneaux, le débat.
Anne Serre vient vous parler des copeaux et du goût du bois. On a la fête des vignes ce week-end. On a le Cité Vie à partir de mardi prochain. Montpellier accueille beaucoup d'événements du vin en ce moment. Le Cité Vie, c'est le salon des techniques de la vigne et du vin et d'autres filières agricoles. Mais nous, ça nous intéresse de ce point de vue-là. C'est le salon pour nous des tracteurs, des levures et des marchands de bois, que ce soit sous forme de barriques ou de copeaux. Les copeaux incitent les consommateurs à la méfiance, vraisemblablement, à mon sens, pas à juste titre. J'aimerais démonter une idée fausse. J'entends trop souvent des copains mettre le nez dans le verre, tomber sur un vin boisé et dire « Oula, ça c'est des copeaux ». Non, ça se passe pas comme ça. Dégustation avec des professionnels à l'appui.
Bon, c'est juste des copains, hein, ils ont le droit. Tes amis, ça se trouve, ils sont.
Non,
sont
mais
plus
même,
calés,
les même les professionnels ne font pas la différence, à part certains œnologues et qui sont très spécialisés là-dedans.
On peut pas faire la différence entre les copeaux et le
tonneau. On part du principe que plus le vin est boisé, plus il y a de chances que ce soit à cause de copeaux. Pas du tout. Les œnologues maîtrisent beaucoup mieux l'apport aromatique en bois avec les copeaux. Donc, le plus souvent, c'est plutôt le produit d'un désaccord entre un apport en bois trop important et un vin trop faible pour le retenir. J'entendais Michel Raymonda tout à l'heure dire barrique ou copeaux, pourquoi choisir? Il faut savoir que les barriques et les copeaux ne sont pas adaptés au même type de vin. Une barrique, ça apporte non seulement les arômes du bois, mais des tanins, une structure tannique et une oxygénation à travers le bois qui est poreux. C'est bon pour des vins suffisamment costauds, récoltés à des rendements suffisamment élevés pour qu'il y ait une matière qui puisse absorber et contenir le bois. Quand on est face à des vins qui se vendent moins cher et qui sont cultivés à des rendements plus élevés, on a une matière plus diluée qui gagne à profiter des apports aromatiques et des apports en tanins des copeaux, mais qui ne résisterait pas à un apport en oxygène ou à un apport en tanins plus important dans une barrique qui les assommerait. Donc la vraie question à la sortie, à mon sens, c'est... est-ce qu'on aime un vin au goût de bois ou un vin où le fruit triomphe? Ça, est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir un goût de bois pour bien vendre un vin? De nos jours, oui, ça a été une tendance. On est face, on l'a dit, à des nouveaux consommateurs, une nouvelle façon de boire le vin. Plus loin des repas, on a besoin de vins plus arrondis, plus accueillants. Et c'est un effet du bois et des arômes de vanille qui le distillent.
Donc on est complètement dans les idées reçues, là, hein, en fait, sur les copeaux, la barrique, etc. Décidément, le vin, il faut changer de culture, alors, hein, de façon d'appréhender. Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est que n'ayez pas peur des copeaux de bois, c'est vachement mieux. Hein, c'est ça?
C'est adapté à un type de vin et à un segment prix. Quand on vend un vin à 5 euros la bouteille, c'est pas rentable économiquement, oui, d'investir dans une barrique. Et c'est pas souhaitable pour le vin parce qu'il va s'effondrer.
Non, alors il y a les puristes qui vont dire oui, mais alors blasphème, non, c'est ça en fait.
Mais il faut se mettre dans la tête que tous les vins ne sont pas destinés à vieillir, à être conservés et à être vendus cher. Et donc
absolument,
tous les vins n'ont pas la barrique pour destination.
Absolument, absolument. Et alors, tu es venu là, je vois, il y a des échantillons là. Alors, on est à la radio, alors c'est pas très vite, très
ça
visuel.
Ça se voit pas beaucoup, mais il faut savoir que bon, on pense aux copeaux, on pense à des bouts comme du charbon. Le copeau, ça va d'une paillette, oui, comme on la voit ici toute petite, à des planches, qu'on plonge, qu'on appelle des douelles et qu'on plonge dans les cuves en inox.
D'accord.
Pour aromatiser le vin, et on peut surveiller au jour le jour la façon dont le vin réagit au bois. Quand on est satisfait, on s'arrête là, alors que dans une barrique, c'est beaucoup plus difficile à maîtriser. Le bois est beaucoup plus capricieux. Sur les 6 premiers mois, il en donne beaucoup. Puis ensuite, tout d'un coup, le vin absorbe le goût du bois et c'est beaucoup plus discret. C'est d'un maniement beaucoup plus délicat à la barrique.
D'accord, mais là, ce que je vois là, c'est des tiges de bois d'une vingtaine de centimètres. Alors là, il y a marqué vanille, épicé, mocha, toast. C'est en fonction des essences de bois, on dit que ça va développer tel type de.
En fonction, pas tellement des essences de bois parce que normalement c'est toujours du chêne, mais plutôt en fonction de la chauffe, du type de chauffe qui a été appliqué sur les morceaux de bois.
Ok, donc le débat barrique ou copeaux, on le résout en fonction de son utilisation, c'est-à-dire c'est un faux débat quoi en fait.
C'est ça. À mon sens, c'est un faux débat.
Eh ben voilà, on en aura appris des choses aujourd'hui. Michel, donc toi, on va, on va, on va, On va reparler un petit peu, juste 30 secondes avant de se quitter, parce que c'est déjà la fin de Culture Vin. Oui, tu voulais dire ?
Je voulais donner une vérité historique sur les copeaux. On pense tous que les copeaux, c'est les œnologues australiens, les winemakers californiens qui les ont inventés. En fait, c'est Olivier de Serres, probablement, qui a été un des grands précurseurs, puisque dans le théâtre et ménage de l'agriculture, qui a dû s'écrire en 1610, il recommandait de mettre des fagots de bois dans les moûts de raisin. Et donc, on peut imaginer qu'il savait déjà à l'époque parfaitement contrôler le goût du boisé dans les vins de l'époque.
Le temps passe, je sais, c'est très court, Culture Vin. Il faudra qu'on en refasse une. Hein. C'est bientôt, c'est dans 15 jours. Merci, Anne Schendorfer, de nous avoir baladés à Montpellier. Merci, Anne Serre, de nous avoir éclairés sur ce débat qui est un faux débat. Merci, Catherine Bernard. Je suis ravi que tu nous aies rejoints. Merci, Michel Raymonda. Ah, Michel Raymonda, Culture Vin ne pourrait pas se faire sans toi. Merci à Yvon Pellet qui est déjà parti sur la place de la Comédie pour aller boire un petit coup. C'est bientôt l'heure, c'est l'heure d'ailleurs. Merci à Florent Robin, notre littéromane adoré. Merci aussi à Manuel Plaza qui a réalisé cette émission.